notre réalité de l'homme et de la femme peut-elle être un témoignage de notre richesse et de notre diversité homosexuelle dans l'Église ? Je crois que chacun d'entre nous est un témoignage de richesse et de diversité. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on sent qu'aujourd'hui, mais ça peut s'expliquer, la dimension de l'orientation sexuelle prend une place extraordinaire. Alors moi, je viens d'un monde où ça faisait pas de problème, c'était pas le mot, mais c'était pas ça qui était regardé, quoi. Il y avait un discours sur ce qui était sur des comportements. Bon, il y a des actes qui sont positifs, des actes qui sont négatifs, si on le fait, on ne le fait pas. Mais la question, ce n'était pas de savoir si le fait d'être plus sensible à l'Apollon de Praxitèle était une richesse, une difficulté que de l'être à la Vénus de Milo. Bon, ils n'ont pas tellement tous leurs membres, ni l'un ni l'autre d'ailleurs, mais ce n'est pas les mêmes qui manquent. Mais je voudrais dire ça, c'est-à-dire, j'ai envie de vous dire, quand vous pensez à vous, quand vous vous présentez, essayez de vous dire que cette dimension-là qui existe, qui est réelle, qui est forte, n'est pas votre qualificatif premier. Enfin, dans la vie, enfin, on ne se présente pas en disant « Bonjour, bonjour madame, je me présente... Adhémar Dupont, informaticien homosexuel. » Ou bien, « Bonjour, Guindeberge Gramouillot, professeur de pharmacie lesbienne. » Enfin, personne ne dit ça. Enfin, je veux dire, ça peut pas être une identité. Enfin, ça fait partie de l'identité, mais c'est pas l'identité première. Mais bien sûr que tout ce que vous êtes est une richesse pour l'Église, y compris tout ce qui va avec. Parce que derrière ça, il y a quand même l'idée qu'on pourrait considérer que c'est négatif. C'est pas négatif, l'homosexualité, c'est ce qu'on en fait. Personne n'a choisi, c'est un donné. Moi, je me souviens avoir dit ça un jour à un garçon qui venait me trouver. Bon. Il dit, bah, écoute, voilà, ça c'est ton donné, maintenant qu'est-ce que t'en fais ? Mais je vais prendre d'autres cas. Nous naissons tous avec des conditionnements divers et variés, en fonction de la famille où nous sommes nés, en fonction de peut-être de difficultés. Moi, je me souviens, j'avais un oncle, il était né avec une main en moins. Bon, ben, il avait des tas de possibilités. Il aurait pu faire la manche, par exemple. Comme le faisait un certain nombre de gens, en fait. Il allait montrer son moignon et dire, allez-y. Bon, j'ai choisi de fabriquer des matelas, mais ça, c'est une autre histoire. Du moins, de les faire fabriquer à d'autres. Mais, bon, mais pas seulement ça. À un moment donné, il ne se définissait pas comme manchot. Mais il l'était. Et ça marquait sa vie, c'est évident. Il y a plein de trucs qu'il ne pouvait pas faire, ou d'autres trucs qu'il faisait différemment des autres. Bon, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, quand l'homosexualité, quand quelqu'un se découvre homosexuel, qu'est-ce qu'il va en faire ? Ben, il y a des tas de possibilités. Parce que j'ai encore un gamin il y a quelques jours, mais hein. Alors, effectivement, il peut décider que ben, ça lui donne tous les droits et que allons-y, quoi. Et moi, j'ai connu ça. J'ai connu, juste au début de l'époque du sida, je rencontrais des gens. Un jour, j'ai fait répéter un gars ce qu'il m'avait dit. Je continue à espérer qu'il se vantait, mais il m'a dit, vous savez, il m'arrive de m'en faire prendre dans les journées, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire ? De s'en faire 30 dans la journée, qu'est-ce qui reste de l'humain là-dedans ? Ça n'a pas de sens, mais c'est une possibilité. On peut, puisque, bon, il faut s'aider un peu, j'ai bien compris, mais désormais on trouve les substances qui permettent de garder une certaine fermeté de propos. Bon, très bien. Mais la deuxième possibilité, c'est se dire c'est abominable, je vais toute ma vie m'abstenir de tout regard sur quiconque et vivre dans la réclusion la plus totale, etc. Bon, à mon avis, ça ne règle rien. Moi, j'ai appris un truc quand j'étais ado, c'est vrai qu'à l'époque, on a un peu travaillé par des tas de choses, et que les formules de macération, ça ne calme rien du tout, même parfois ça augmente. Bon. Et puis il y a, ben voilà, avec ce qui m'est donné, alors si on est chrétien, si on n'est pas chrétien, je ne sais pas, je parle à des chrétiens, comment ce qui aussi me constitue va me permettre de faire mon chemin avec le Christ, avec ce que je suis. Alors, bien sûr, j'aurai des sollicitations différentes d'un autre. Bien. Mais comment néanmoins je vais vivre avec, et c'est quand même pas une catastrophe, quoi. Vous savez, c'est une histoire que je trouve très jolie, parce qu'elle est à tiroir, en fait, quand on y réfléchit. Vous savez, de la supérieure d'un couvent très chic, qui a une école, et puis c'est la fête des anciennes élèves. Et elle passe, et elle dit à la première, « Oh, Marie-Hermine, je suis heureuse de vous voir, qu'êtes-vous devenue ? Alors, écoutez, ma mère, voilà, j'ai épousé Sébastien, comme j'avais prévu, voilà, il est magistrat aujourd'hui, je suis pharmacienne. Ah, très bien, ma vie. » Ah, ma petite Ginette, comment allez-vous? Très bien, ma mère. Et qu'est-ce que vous avez dit? Je suis prostituée, ma mère. Vous êtes quoi? Je suis prostituée, ma mère. Ah, excusez-moi, j'avais compris protestant. Eh bien, je me dis, voilà, c'est un tiroir, parce que bon, on voit très bien ce qui fait rire, mais ça veut peut-être aussi dire quelque chose de plus profond. Bon. Il y a ce que la vie fait de nous, on est brun ou blond, il y en a qui louchent, il y en a qui ont au contraire des yeux admirables, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais j'allais dire, on devrait se poser la question que pas que de l'orientation sexuelle, parce que derrière, il y a une espèce de victimisation qui m'énerve dans le milieu homosexuel qui laisserait supposer que les hétérosexuels n'auraient aucun problème. Et que vraiment, eux pourraient maîtriser la sexualité, et que ça serait clair et limpide que depuis leur enfance, ils sont destinés à un beau mariage chrétien dans lequel il n'y aura jamais de problème. Enfin, c'est pas sérieux de dire ça. C'est-à-dire, tout homme, enfin tout être sexué, mais en tous les cas, tout homme et toute femme, parce qu'il est sexué, doit bien s'organiser et s'arranger avec sa sexualité, avec la part irrationnelle, la part pulsionnelle, et puis aussi la part rationnelle qui est à l'intérieur. Et c'est pas sûr que les hétérosexuels soient mieux logés. Enfin, on le voit bien, quand même, les couples, ça a quelques problèmes aujourd'hui. Et donc, à partir de là, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on en fait si on est chrétien dans une relation où l'on va chercher être le plus vrai possible avec le Seigneur? Et avec autrui. Mais après, moi, je sais pas. Parce que chacun d'entre nous est dans son chemin, dans son histoire, et qu'une vie se fait pas en un jour. Et que les chemins sont divers. Et même si, je sais pas, s'il y en a dans la salle, mais même si vous êtes des addicts du sexe dans des lieux voilà, que le milieu et la mafia mettent à votre disposition, mais j'ai envie de vous dire, ne vous désespérez pas pour autant. Vous avez un chemin avec le Seigneur possible. Alors il ne se fera peut-être pas du jour au lendemain, il ne se fera peut-être pas dans une ligne extrêmement droite, mais au moins pas plus que le mien, dans d'autres conditions et dans d'autres dispositions. Bon, c'est comment nous acceptons ce chemin-là sans tout le jour nous dire « je suis ceci ou je suis cela ». Voilà. Il y a plein de gens, enfin, moi je pense, j'ai eu à rencontrer que deux fois dans ma vie des personnes pédophiles. Mais c'est terrible pour elles. Il ne suffit pas simplement de dire que c'est dégoûtant, que c'est affreux, etc. Mais c'est des pulsions qu'ils vivent et qui les entraînent. Et alors qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire « bah, écoutez, il y a un pont pas loin, vous sautez, on n'en parle plus ». Ou leur dire « même pour vous, il y a un chemin ». Alors évidemment, en se donnant les moyens, etc. Bon, on est bien d'accord là-dessus. Bon, c'est des personnes qui ont été encore confrontables, hein, qui n'ont pas passé à l'acte. Mais justement, on vivait dans la terreur, les passages à l'acte. Alors, bah, évidemment, on va d'abord leur dire, évitez d'être instituteur. Bon. Mais comment chacun d'entre nous, d'abord, avant de se dire, je suis homosexuel, je suis hétérosexuel, je suis je crois quoi, bon, comment il va d'abord se dire, je suis un être humain, créé à l'image de Dieu, que Dieu appelle, qu'il aime et qui attend que je réponde à son amour. Et j'irai comme je pourrai. Vous savez, je citais le soulier de satin hier, décidément. Mais vous savez pourquoi ça s'appelle le soulier de satin? Parce qu'il y a cette brave Donia Proez, qui a très envie de cavaler avec Rodrigue. Il n'y a qu'un problème, ce n'est pas son mari. Et alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève une chaussure, elle la donne à la Sainte Vierge. Elle lui remet à la garde, elle lui dit que si je cours au mal, au moins j'y aille d'un pied boiteux. Bon. Mais il y va, hein, puisque toute la pièce c'est ça. Et pourquoi? Parce que Claudel raconte son histoire, il sublime l'histoire qu'il a eue avec cette femme, bon, qui était mariée, qui était la mère d'une de ses filles, et qui a empoisonné sa fille d'ailleurs, pour le reste de sa vie, parce qu'il lui a pompé un fric fou. Bon. Mais derrière, il y a ça. C'est-à-dire, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est dans le cœur des hommes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi et dire j'aime bien Jésus, donc je continue, c'est pas ça la question, mais c'est comment je peux m'ajuster. Et il y a des étapes, et puis des étapes qui pour certains sont aussi des arrivées. Chacun d'entre nous, nous sommes quelque part, mais nous ne devons jamais désespérer ni de nous-mêmes, ni de la miséricorde de Dieu, si nous cherchons Dieu. Et et vraiment, ça, je crois que c'est capital. Simplement, nous devons toujours revenir à se dire que aimer Dieu, mais aimer l'autre, c'est aussi le vouloir heureux et respecté. Et je ne vous cache pas, alors non, bon, c'est les regards extérieurs, mais je ne vous cache pas qu'il y a des aspects de la sexualité homosexuelle qui m'interrogent quand même, et dont je ne suis pas complètement sûr qu'elle soit, je parle masculine, mais qu'elle soit constructive de la relation humaine. Mais il ne s'agit pas d'une condamnation, quand je dis, c'est une question que je pose, et que l'on peut regarder. Mais c'est aussi des choses qu'on peut regarder si on est en couple, qu'on peut regarder en couple. Là aussi, je me dis, si l'étape où vous êtes, c'est de vivre en couple, les couples homosexuels ne sont pas plus dispensés que les couples hétérosexuels de se parler. Et de se parler en vérité. Je veux dire, toute relation humaine suppose que l'on se parle. Mais pas seulement d'ailleurs de couple, même d'amitié. Si vous avez des amis avec qui vous n'abordez jamais les questions de fond, je ne suis pas sûr que ce soit des amis. Quoi. Et il faut être capable de se le dire. Moi, je me souviens très bien le jour où, étant prêtre, j'ai rencontré un prêtre, je suis allé exprès, qui était un ami que je connaissais bien, pour lui dire « Je crois que tu es en train de t'engager dans une relation avec une femme. » Et il m'a dit « Comment tu le sais ?» Je lui ai dit « Ça, c'est mon problème, je te le dis. » Il me dit « T'as raison et j'aimerais que tu m'aides. » Mais si personne ne lui avait jamais dit, comment en aurait-on parlé? Pas pour lui dire c'est mal ce que tu fais, mais dire simplement tu te fous une situation impossible pour toi, parce que son intention était d'être prêtre, qu'il était sincère quand il s'est engagé au célibat, et qu'il était en train de se faire. Mais que, voilà, chaque vie est complexe, et que cette femme était mariée, qu'elle avait des enfants, et que ce n'était pas le moment de... Bon, elle était aussi hystérique, mais c'est une autre question. On l'a découvert qu'après. Mais je veux dire, savoir dire les choses, souvent on a peur de les dire. Alors je crois qu'aimer quelqu'un, c'est aussi lui dire, mais c'est mieux entre nous. Et je crois que ça c'est vrai. C'est-à-dire que, vraiment, il y a une richesse, mais c'est vrai que souvent, pas toujours, mais souvent, les orientations sexuelles sont marquées avec plus ou moins de sensibilité, un certain nombre de choses. Bon, c'est une richesse pour tout le monde, c'est une richesse pour l'Église. Qui va dire que le plafond de la Sixtine n'est pas une richesse de l'Église ? Et qui ne dira pas aussi que le plafond de la Sixtine, c'est quand même, d'une certaine façon, la sublimation des fantasmes de Michel-Ange. Seulement voilà, Michel-Ange, pendant, alors je ne sais pas ce qu'il a fait avant et après, mais pendant qu'il a peint le plafond, il n'est pas allé dans les bordels du Trastevere. Il a exprimé ce qu'il était dans son art, puisque son art lui était donné, à travers quelque chose qui nous parle encore et qui est une hymne à la résurrection. C'est fabuleux. Relisez l'homélie de Jean-Paul II pour l'inauguration de la restauration de la Sixtine. Hein, il parle de la glorification du corps, etc. Alors évidemment, les malades ricanent avec des mecs. Ben, d'abord, c'est pas vrai. Il y a aussi des femmes, il y a toutes les civiles. Bon, c'est un peu de la femme costaud. Enfin, mais il y a aussi les mecs aussi. Hein, je veux dire, je ne sais pas si vous avez vu le mollet de l'ignoudie moyen, l'ignoude moyen de Michel-Ange. Bon, voilà. Mais derrière, et on pourrait le dire de tas d'autres choses. Moi, j'ai été très marqué parce que j'ai travaillé sur lui, parce qu'il m'a profondément marqué par son message, je parle de son message spirituel, mais par un religieux du 19e siècle, c'est le Père Lacordaire. Père Lacordaire était très certainement homosexuel. On a publié ça, on a publié ses correspondances. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait jamais couché avec quelqu'un, je veux dire, son orientation est devenue claire. On a publié sa correspondance avec Montalembert. Il ne faut pas rigoler quand on lit dans l'introduction que c'était normal, on était en période romantique, tout le monde se parlait comme ça, y compris Alexandre Dumas. Enfin, Alexandre Dumas n'a jamais écrit à un type « Tu es mon Edwige », parce que Edwige était la fiancée de Montalembert, bon. Ou bien « Je suis passé chez toi, on est livré des bottes, tu n'étais pas là, j'ai embrassé tes bottes tout l'après-midi, bon, très bien ». Bon, voilà, c'est quand même un peu étonnant quand même. Bon, mais voilà. Mais je veux dire, alors il y a des gens qui rigolent parce que le brave Père Lacordaire, ben, quand il avait prêché, par humilité, il se faisait fouetter par les jeunes novices. Alors aujourd'hui, évidemment, ça bloque sa béatification. Mais très bien. Ou bien parce qu'il y a un récit où il raconte qu'il s'est confessé un jeune prêtre du côté de Dijon, un jeune prêtre Absous, c'est le jeune prêtre qui a raconté l'histoire et le jeune prêtre est admiratif. Mais il vivait avant Freud. Et bien le Père Lacordaire reçoit l'absolution, puis il revient et lui dit, mon père, puis-je vous demander quelque chose? Je voudrais me coucher par terre et rester sous vos pieds pendant une heure. Et hop, pauvre gars, il travaille à son bureau avec le prédicateur sous les pieds. Très bien. Bon, c'est lui qui dit aussi au père... enfin, au père Pérez, qui lui n'était pas vraiment ce bord-là, mais au père Pérez, il lui dit un moment, c'est Henri Pérez, qui est un très beau gars, qui écrit de Sorèze, un de ses copains, et il dit, le père Lacordaire m'a dit, je voudrais être votre chien. Et Henri Pérez ajoute, que je serais embarrassé de ce chien-là. Bon, bon. Alors, je veux dire, voilà, ça c'est le fond du bonhomme. Mais enfin, ce type, il a fait passer à l'Église la génération romantique. Il a porté le Christ. Et il a enfin permis que nous ne perdions pas complètement la face en rappelant que l'évangile et la liberté s'allaient ensemble. À ce côté un peu provoque, quand les dominicains, hein, quand il est élu député, il n'est pas candidat. Il est élu député en 1848, et siège à l'extrême gauche en habit dominicain. Bon, il a siégé 3 semaines, parce qu'après il y a eu les journées de juin, donc il a pris peur, il est parti. Mais peu importe, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va garder de Lacordaire ? Les histoires un peu rigolotes que je vous ai racontées, ou le fait que cet homme a traversé le siècle et a marqué des générations de croyants, et encore aujourd'hui, parce qu'il leur a permis d'accéder au Christ. Et des gens qui n'allaient pas lire sa correspondance et qui ne s'intéressaient pas à ce genre de trucs. Lisez les lettres à des jeunes gens qu'on a publiées après sa mort. Et je vous assure qu'elles n'ont rien d'ambigu. Et que le gars, quand il parle, il sait ce qu'il dit. Et qu'il est d'une grande exigence. Donc, mais... Alors, est-ce qu'on va dire, bien sûr que c'était une richesse et que cette part de lui-même, elle était aussi dans tout ce qu'il disait. Par exemple, elle lui a donné cette extraordinaire acuité et capacité de parler à la jeunesse de son temps. Simplement, plutôt que de les inviter chez la drag queen du coin, eh ben, il leur a prêché à Notre-Dame. Je veux dire, c'est comment ce qui nous est donné n'est pas irréversiblement une perte. Mais comment, au contraire, vous pouvez, nous pouvons tous, avec ce que nous recevons, faire vraiment un chemin de salut. Et je vous assure qu'il y a plein de personnages qui étaient tous un peu... Bon, il y avait ceux qui étaient de ce bord-là, mais il y en avait d'autres. Enfin, on a des... Parfois, on lit des vies de saints, on se dit, mon Dieu, c'est pas vrai. Enfin bon, peu importe qu'on est. Tous ces gens-là sont d'ailleurs dans la psychanalyse. Alors, on faisait pas... Bon, on lisait ça tranquillement, et même on trouvait ça très vertueux. Bon, il y a M. Ollier qui raconte un de ses rêves. Il avait une... comme tous les gens du 17e, M. Ollier 17e, c'est le fondateur des Sulpiciens, et comme tous les gens du 17e, tous ces types avaient une bergère illettrée qui les aidait de loin par sa prière, ses conseils, etc. La sienne s'appelait Marie Rousseau. Et il a une vision dans laquelle il dort, et le crucifix arrive, et il lui tombe dessus, et quand il serre les bras, c'est Marie Rousseau. Bon. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde rigole, en disant, dis donc, le pépé, etc. Mais, j'ai dit, on s'en fout. Ce type a réformé l'Église, alors il ne savait même pas ce qu'il rêvait, parce qu'il essaie d'interpréter ça. Mais il y a une chose qui m'agace aujourd'hui, c'est qu'on regarde toujours les choses par le petit bout de la lorgnette et qu'on enferme les gens dans les situations. Mais attendez, alors, c'est tout, c'est pas... Et vraiment, essayez de vous décomplexer par rapport à ça. Vous n'êtes pas d'abord des homosexuels, vous êtes d'abord des êtres humains, alors qui en plus sont ça, mais ce que vous voulez, bon... Je citais tout à l'heure la remarque d'un de mes camarades de séminaire qui est un robuste prêtre de l'Ardèche, qui en rajoute un peu dans le côté paysan, et qui, un brave jeune homme qui est tout inquiet, lui dit « Vous savez, mon père, je suis homosexuel. » Et tu dis « Oh, ben moi, je vais avoir des choix. » Voilà. Voilà. Et bien, je me dis, alors c'est une réponse. Bon. Mais est-ce que je veux dire, sortons ce genre de choses qui font souffrir inutilement tout le monde. Et on est tout le temps en train de se lacérer, de se dire qu'est-ce qu'il a voulu dire, j'ai été insulté, etc. Nous sommes des fils de Dieu, que Dieu aime, tel que nous sommes. Hein, ça c'est Saint Jean qui dit ça, tel que je suis Dieu même. Alors, à partir de ce que je suis, je peux faire le pire et le meilleur. On doit tendre vers le meilleur, mais nous tous, quelle que soit notre orientation sexuelle, quelles que soient nos dispositions. Et demain, je me souviens un jour de ce garçon qui m'avait dit « Je voudrais travailler dans la finance. » Il y en a qui travaillent. « Je voudrais travailler dans la finance, mais on me dit que si je le fais, je vais perdre mon âme. » Il était en première. Je lui ai dit « Dans les cloîtres aussi, on perd son âme. On ne perd pas son âme parce qu'on travaille dans la finance. Et on ne la sauve pas parce qu'on est dans un cloître. Mais on sauve son âme parce qu'on la remet au Christ. Et on la perd parce qu'on se sépare de lui. Mais ça, on peut le faire partout. » Voilà, si vous pouviez arriver petit à petit à faire... Alors je sais que c'est difficile, parce que j'imagine bien ce que... mais quand même, essayez d'aller dans ce sens-là. Et bien sûr, l'Église a besoin de vous, de vos richesses, de vos diversités. Il n'y a aucun problème, telle qu'elle s'exprime, tant qu'on conforme, évidemment, à l'amour de Dieu et à l'amour des frères. Voilà, je crois que c'est fini, là. Non, jusqu'à 14h30. Pas une pause. Voilà. Merci, le repas était très bon. Pour le café, je... Bon, mais... mais voilà. Mais merci, je suis heureux d'être venu. Alors, je voudrais simplement dire un dernier truc. Que l'on cesse de dire, oh, comme cet évêque a été courageux de venir nous voir, etc. Je veux voir n'importe qui, donc c'est vous dire. Mais je vous invite à aller rencontrer vos évêques. Et vous serez très étonnés de l'accueil. Ceux qui l'ont fait, m'en ont témoigné tout à l'heure, il n'y a aucun évêque qui vous recevra mal. Peut-être qu'il sera amené à vous poser des questions ou à vous dire des choses, mais aucun ne vous recevra mal. Et au contraire, je crois que tous, parce que tous les évêques connaissent votre existence, tous sont intéressés par l'existence de votre association, de votre mouvement, et pensent que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Je crois que certains d'entre vous ont rencontré le président de la commission pour les affaires sociales et familiales, et que d'autres ont rencontré, ou les mêmes ont rencontré le cardinal Antonelli, je crois. Bon, je pense pas que vous avez été mal reçu. Bon, vous n'avez pas fait l'objet d'une excommunication majeure. Bon, et donc, il faut cesser d'avoir peur. Vous savez, c'est la peur, rappelez-vous l'histoire du voleur de hache, c'est la peur qui vous fait supposer ce qu'on va penser de vous. Mais que voulez-vous qu'on pense de vous ? Que vous êtes des gens comme tout le monde. Vous avez sûrement des défauts, et du coup ils agaceront les gens, vous avez des qualités, ils les émerveilleront, mais arrêtez de vous imaginer qu'il y a quelque chose écrit là-dessus. Bon, parfois ça se voit, c'est vrai, mais je veux dire, mais c'est pas... pas toujours. Mais alors, qu'est-ce que ça fait ? Bon, moi je me souviens d'un de mes confrères qui, venant de rencontrer un prélat, mais un prélat étranger, se penche vers moi et me dit, grande sensitive. Bon, très bien. Mais peu importe, je veux dire, c'est pas ça qui compte. Ayez confiance. Il y a une façon d'aborder l'Église. Alors, on peut lire le catéchisme et trouver qu'il y a des trucs, ils sont pénibles, etc. C'est vrai, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, quand ma mère m'engueulait, elle en rajoutait toujours 3 tonnes pour être sûr que je ne ferais pas de bêtises. Voilà, on sert tout. Bon, et elle avait raison, la brave femme. Après, j'ai compris. Bon, donc, arrêtez de gratter vos blessures parce qu'il y a un texte qui est équipé. Rencontrez vos pasteurs. Rencontrez vos pasteurs, invitez d'autres évêques. Il n'y a pas que moi, hein, on est 107 en France. Rencontrez vos pasteurs, faites leur confiance. Et vous verrez que c'est beaucoup plus étonnant que ce que vous croyez. Et j'ai dit la même chose à des divorcés mariés il n'y a pas très longtemps qui s'imaginent. Ah, la dame qui dit, mais je suis divorcée mariée, je lui dis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parce que moi, je m'en fous qu'elle soit divorcée mariée, ce qui m'intéresse, je peux lui demander un service. Bon. Et divorcée mariée, c'est pas intéressant. Je n'ai pas prévu de me remarier moi-même, donc voilà. Mais, voilà, gardez cette confiance. Voilà ce que je voulais vous dire. Essayez de dépasser les peurs, peut-être la peur de vous-même, et allez frapper aux portes. Et vous verrez. Vous avez toute votre... Moi, je vous le dis, alors, vous pouvez vérifier sur Google, hein, je n'appartiens pas, en tous les cas, je ne suis pas classé, je ne me classe pas moi-même, je suis rarement classé parmi les évêques progressistes. Hein. Je suis plutôt dans le clan de l'honnête marais. Voilà. De toute façon, vous savez, quand vous devenez évêque, c'est que vous ne cassez pas 3 pattes à un canard, hein, mais sinon, vous ne m'êtes pas évêque. Et alors, c'est que vous êtes dans l'honnête marais, donc vous avez l'évêque lambda. Bon, ouais, peut-être un petit côté de cirque quand ils parlent, mais ils ne sont pas tous comme ça, heureusement, d'ailleurs. Mais voilà, donc moi je vous invite à ne pas hésiter à rencontrer vos évêques, vos pasteurs. Et puis si vous en trouvez, les évêques n'en trouveraient pas qui vous jettent, les curés peut-être, on m'a donné des exemples, et que si vous voulez prier pour eux, et dites-vous qu'il doit y avoir quelques petits problèmes de refoulement, c'est fini, voilà. On a droit, hein, aussi. Voilà, merci beaucoup.